Bonjour, ravi de vous retrouver dans Grand Bien vous fasse. Et ce matin, je vous propose de mieux comprendre ce qui se passe dans un cabinet de sexologie ou de sexothérapie. Au risque, hélas, de vous décevoir, nulle trace de propos graveleux ou de révélations émoustillantes. Loin des idées reçues et des fantasmes entourant la profession de sexothérapeute ou de sexologue, nous irons à la rencontre de femmes et d'hommes confrontés à l'amour en fuite, à la lassitude, au manque de communication, à la frustration ou encore au désir en berne. Nous verrons que les couples qui consultent nous aident à mieux éclairer les mystères de la sexualité. Si vous avez déjà consulté un sexologue ou un sexothérapeute, n'hésitez pas à témoigner par courriel grandbienvousfasse@radiofrance.com, sur notre page Facebook et au standard de France Inter, Elias et Clarisse vous attendent au 01 45 24 7000. Et puis en l'absence de notre prof de philo Thibaut de Saint-Maurice, c'est Guillaume Lamar, spécialiste en art du récit, en storytelling, qui décortiquera tout à l'heure une campagne de publicité.
France Inter, grand bien vous fasse, Ali Rebbi.
Il y a encore beaucoup à faire, en partie ici et en partie chez vous. Ainsi, ce soir, comme exercice pratique, je veux que vous vous étendiez sur votre lit, côte à côte, sans vous toucher, et que vous partagiez un fantasme sexuel.
Je suis une princesse fée dans la forêt, et je chevauche une licorne, quand soudain tu surgis, un pirate. En peau de bête, un prince déguisé. C'est alors que tu m'arraches brutalement à ma licorne, tu déchires sauvagement mes jupons en dentelle et tu mets ton schooner tout au fond de ma Rebecca. À ton tour, qu'est-ce que tu fais ?
Un cauchemar.
Un extrait de la série américaine Sex and the City. Avec nous pour mieux comprendre ce qui se passe dans un cabinet de sexologie ou de sexothérapie, Elsa Fehner, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste spécialisée dans les questions du travail et de la santé et vous publiez au Seuil Sexothérapie. Bonjour Alain Ril.
Bonjour.
Bienvenue dans l'émission. Vous êtes psychanalyste et sexothérapeute et vous avez publié aux éditions Bussière Sexothérapie, c'est confidence qui soigne. Dernier ouvrage paru dans la tête des hommes chez Payot et nous attendons le docteur Sylvain Mimoun en retard comme d'habitude dans cette émission. Il doit arriver, il est sexologue et il dirige le centre d'andrologie de l'hôpital Cochin. Alors première question simple, on parle de sexothérapie, de sexologie, c'est quoi la différence Elsa Fehner?
Alors, sexologie, deux manières d'être sexologue en France. On peut être médecin et suivre un diplôme universitaire de sexologie. Et on peut être psychothérapeute et suivre un diplôme universitaire de sexologie également, qui n'ont pas exactement le même contenu, mais qui sont en 3 ans tous les deux. Donc, ça veut dire que sur votre plaque ou dans l'annuaire, vous êtes médecin sexologue ou psychologue, psychothérapeute, sexologue. Donc ça, c'est pour la sexologie. Et pour la sexothérapie, je vais vous laisser répondre.
À la Eril.
Alors, la sexothérapie est souvent associée à la psychothérapie également, parce que en sexothérapie, on va travailler sur l'histoire du sujet, c'est-à-dire de replacer la sexualité à l'intérieur de l'histoire de la personne, donc l'histoire éducationnelle, les expériences et tout ça. C'est pour ça que souvent il y a un lien avec la psychothérapie ou la psychanalyse. Mais bon, les différences, elles sont quand même relativement minces dans l'exercice du cabinet.
Elsa Fehner, dans votre livre, vous racontez des séances de sexothérapie hein, qui se sont déroulées entre avril 2013 et avril 2014 dans le cabinet d'une sexologue qui exerce dans la banlieue d'une grande ville. Parmi les 1000 sexologues recensés par les 3 principales associations qui les fédèrent, comment avez-vous choisi la sexologue qui vous a ouvert les portes de son cabinet? Vous l'appelez Romy Steiner, c'est évidemment un pseudonyme.
C'est un pseudonyme pour préserver l'anonymat des patients. Alors je l'ai choisi parce que je l'avais interviewé quelques années plus tôt lors d'un colloque sur l'hypnose médicale. J'avais voulu voir quelles étaient les différentes applications de l'hypnose et il se trouve qu'en sexologie, l'hypnose peut avoir un intérêt. Et ça fait partie de ces interviews que vous devez avoir de temps en temps qui vous marquent, qui vous poursuivent pendant quelques années, vous y repensez. Vous savez qu'un jour vous allez recroiser la personne, vous allez en faire autre chose qu'une simple interview. Et c'est ce qui est arrivé, j'ai eu l'occasion, j'étais dans une rédaction où j'écrivais des papiers tous les jours, j'ai eu envie de partir sur un projet au long cours et cette sexologue m'est revenue en tête. Je me suis dit ce que j'adorerais, c'est me faire petite souris dans son cabinet. Voilà. Et je l'ai rappelé, elle se souvenait très bien de cette interview, elle avait un bon souvenir de finalement du résultat, elle avait trouvé que ça avait été assez fidèle à ses propos, et elle a pris le temps de la réflexion, elle m'a dit d'accord, je vous ouvre mes portes.
Mais qu'est-ce qui vous a poussé à pénétrer dans les secrets d'un cabinet d'un sexothérapeute ?
Je vais demander aux psychanalystes qui sont en face de moi.
Bah, j'ai entendu le mot pénétrer, effectivement.
C'est pas toi qui l'ai dit.
Je ne peux pas faire autrement.
J'avoue que je n'ai pas totalement explicité les motifs. J'avais envie d'un temps long, j'avais envie d'arrêter de poser des questions et plutôt d'être presque invisible, transparente, ce qui est complètement utopique parce qu'on soit deux ou trois dans un cabinet, ça change tout. Ma présence a forcément changé le déroulé des séances. Voilà, dans un sens comme dans l'autre, je ne sais pas ce que ça aurait été sans ma présence. Mais j'avais envie d'avoir accès à l'intimité, à ce qui se passe finalement. On parle assez peu de sexualité finalement dans ces cabinets-là. On parle beaucoup de ce qu'il y a dans le crâne des gens, dans la tête des gens, et comment on peut remettre en adéquation la tête et le corps.
Et oui, vous vous êtes retrouvé dans un lieu parfois plus intime que la chambre à coucher ou que le lit, un lieu où les patients racontent à la sexologue, mais également à vous, Elsa Fenner, ce qu'ils ont dans la tête quand ils font l'amour, ce qu'ils éprouvent, ce qui les bloque, ce qui les frustre.
C'est ce qui m'a intéressé, c'est finalement toutes les croyances, les représentations, les ça se fait pas, ça, mais c'est pas possible, que ce soit au niveau des sentiments ou des pratiques sexuelles. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au détour d'une phrase, j'ai pas fait ça, j'ai pas pratiqué telle position, parce que vraiment ça se fait pas avec son mari. Et la sexologue en profite et rebondit, et dit, mais pourquoi ? Ah ben non, évidemment, ça se fait pas. Mais alors pourquoi ? Elle les pousse dans leur retranchement, comme en psychothérapie, puisque ce sont ces croyances et ces associations qu'il va falloir démonter pour laisser la place à d'autres.
Alain Héril.
Oui, ce qui est intéressant, c'est que là, on voit bien que la différence entre sexologie et sexothérapie est vraiment très mince, parce que ce qui est intéressant par rapport à la sexualité, c'est que si on regarde bien, on passe plus de temps à penser à sa sexualité qu'à la faire. Donc c'est comment on est organisé avec des représentations, avec de la morale, c'est aussi politique également la sexualité, comment tout ça, ça vient dans le cabinet, puis ça raconte quelque chose de la relation à soi, de la relation à l'autre, et puis comment on arrive à démêler tout ça à partir d'un symptôme qui est toujours invalidant pour le patient.
Bonjour docteur Sylvain Mimoun.
Bonjour.
Presque à l'heure.
Presque à l'heure.
Ça devient une habitude dans cette émission.
Voilà, mais c'est que bon.
Vous êtes sexologue, gynécologue, psychosomaticien, vous dirigez le centre d'andrologie de l'hôpital Cochin et vous avez notamment publié Côté cœur, côté sexe, l'ABC du bonheur à deux chez Albin Michel. C'est quoi le domaine d'intervention de la sexologie ? On a, avant que vous arriviez, on a essayé de faire un distinguo entre la sexothérapie et la sexologie. Vous, qui êtes sexologue, c'est quoi votre domaine d'intervention ?
Bon, moi, par rapport à mes collègues ici présents, je me placerai du côté médical. Donc, je suis beaucoup plus médecin que psychothérapeute, même si de formation, je suis gynécologue et psychiatre, mais je ne fonctionne pas en tant que psychothérapeute. Cela dit, si je m'occupe de sexologie, bien entendu, il y a de la psyché. Et donc, je suis obligé, d'une certaine façon, d'aider la personne à pouvoir aller du côté de son corps à sa tête, si je puis dire, et de voir un peu comment on peut travailler avec tout ça, quoi. Et de fait, à partir du moment où on part du symptôme qui les intéresse, eux, les patients, à ce moment-là, on peut peut-être les aider à trouver une solution.
Elsa Fenner, dans votre ouvrage Sexothérapie, rien qui ne puisse échauffer les sens. Hein. On est loin du fantasme ou de l'idée reçue entourant un cabinet de sexologue ou de sexothérapeute. Hein.
Oui, je sens une certaine pointe de déception.
Un petit peu quand même.
Oui, personnellement, j'étais un petit peu déçue également. Mais effectivement, les gens qui ont une pratique épanouie, variée, et pleine d'imagination et de nouveauté ne consultent pas. Si les gens se consultent, c'est qu'il y a un point d'arrêt. Qui ne font plus l'amour ou que ça pose problème et que c'est passé au niveau de la tête, effectivement au niveau du cérébral. On intellectualise beaucoup, on en parle beaucoup, mais de manière très posée et froide. Il y a un moment, il faut refaire et laisser aller. Donc effectivement, les problématiques pour lesquelles les gens consultent sont assez banales, mais pour les gens qui consultent, c'est une montagne insurmontable.
Alain Héril, beaucoup de fantasmes entourent ce qui se dit dans un cabinet de sexothérapeute.
Bah oui, la preuve. oui, il y a beaucoup de fantasmes parce qu'on a l'impression que c'est l'espace où tout d'un coup il y a tout un tas de choses extraordinaires, incroyables qui vont se raconter. Et je rejoins ce que dit Elsa, effectivement. Moi j'ai consulté pendant 27 ans et c'est des histoires simples, banales, mais douloureuses, bien entendu, qui se racontent. Et ce sont quasiment toujours des histoires relationnelles. C'est toujours une problématique dans la relation à soi, dans la relation à l'autre, dans ce qu'on suppose que devrait être la relation et ce que ça n'est pas. Et c'est vrai que bon, moi je pense effectivement que la sexualité, en tout cas telle que je l'ai accompagnée en cabinet, était toujours une problématique relationnelle.
Bonjour Bernard.
Oui, bonjour.
Vous appelez de Saint-Galmier et vous avez une question à nous inviter.
Oui, je voulais savoir, ça va faire au moins 5 ans que je n'ai plus de rapport sexuel avec mon épouse. Elle, ça ne la dérange pas, vu qu'elle a eu la ménopause, elle a 60 ans. Moi, j'en ai 50, elle en a bien 60 ans, moi j'en ai 57. On a 4 ans d'écart, elle est plus vieille que moi. Et donc, moi, je voulais savoir s'il fallait que je pousse vraiment pour avoir des rapports sexuels ou s'il fallait que je me contente de faire des bidous de temps en temps. Voilà.
Sylvain Mimoun, je suis désolé Bernard, on est obligé de couper la liaison est trop mauvaise. Sylvain Mimoun.
Heureusement qu'il n'y a pas une réponse simple à une question aussi compliquée. En apparence simple. Le but du jeu, c'est qu'en fait, moi je retiens qu'un couple fonctionne bien s'il y a un égoïsme partagé. Donc si chacun des deux partenaires se sente motivé par l'histoire, il va se passer une belle histoire. Si jamais il n'y en a qu'un seul des deux qui rame, que ce soit elle ou lui, et qui essaye de faire qu'à tout prix il y ait des rapports, j'ai envie de dire pourquoi faire. Et la question de fond, elle est là, quoi. Et à partir du moment où ils sont tous les deux dans cette action commune de pouvoir trouver la solution, les choses vont pouvoir se résoudre.
Alain Eril.
Je suis tout à fait dans ce sens-là. Et puis en même temps, là, dans ce qui était dit, c'est très 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 intéressant de voir aussi combien la sexualité s'organise avec des idées reçues. Parce que quand il dit bon, elle a plus envie, donc c'est normal, c'est la ménopause, c'est pas la fin de la sexualité.
Exactement.
Heureusement. donc il y a tout ça qui est en jeu aussi, bien sûr.
Bonjour Antoine Lee.
Bonjour.
Grand reporter du Quotidien. Alors, vous avez rencontré un couple qui a fait le choix de ne pas consulter un sexologue ou un sexothérapeute.
Ouais, en fait, c'est un couple échangiste libertin parce que j'avais envie de savoir si le libertinage pouvait être une solution lorsqu'on a des problèmes de couple et de sexualité.
Rassurez-moi, c'est un reportage très soft, hein.
C'est soft. Parce qu'on est à 10h du matin, il y a des enfants qui peuvent nous écouter.
Exactement. Allez, pas de petite philo de la pub et des marques cette semaine, mais je demandais à Guillaume Lamar de nous décortiquer une histoire de pub. Bonjour, Guillaume Lamar.
Bonjour Ali.
Vous êtes spécialiste en storytelling, c'est-à-dire en art du récit. Alors vous nous racontez cette semaine l'histoire du dernier spot de la marque Samsung. Et pour être en règle avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel, citons les marques Renault, Peugeot et Ford.
Allez. Bon, ce jeudi de l'Ascension, je vais vous raconter l'histoire d'une envolée. Mais pas n'importe quelle envolée, celle d'une autruche. Est-ce que vous connaissez donc ce fameux spot pour la marque Samsung?
Je l'ai vu.
Vous l'avez vu Ali? Bon, je vais le raconter quand même. Tout commence dans le bush australien. Sous une chaleur accablante. Un troupeau d'autruches pâture tranquillement dans la poussière. C'est alors qu'un des bipèdes, moins farouche que les autres, s'avance vers une habitation humaine. La table du petit déjeuner sur la terrasse a été abandonnée. Le volatile, surpris mais ravi, commence à picorer les restes laissés par la Miricorée. Comme par hasard, un masque de réalité virtuelle a été oublié là. L'autruche, en voulant atteindre une miette, se retrouve avec le masque sur les yeux. Elle a alors une révélation. Elle est virtuellement propulsée au milieu du ciel, en train de voler. Là où sa condition ne lui permettra jamais d'être. La musique démarre. C'est Elton John qui s'y colle, avec Rocketman. L'oiseau découvre alors qu'il est doté d'ailes. Il les déploie en vrai, se met à courir et à sauter en se vautrant devant ses congénères. Le jour tombe. Notre autruche est épuisée par ses tentatives de décollage ratées. Elle reste prostrée au milieu du désert, le masque sur le bec. Le lendemain, nous la retrouvons sans le masque. On la devine déterminée. Elton John est passé au taquet. Il s'agit du climax de notre histoire. Le climax, c'est ce moment où le héros se trouve confronté à son propre désir. Il doit alors décider de changer pour évoluer. Notre Icare des bacs à sable prend alors son élan, attaque sa course, déploie ses ailes et s'envole sous les cris de ses collègues de bureau. Le slogan de Samsung, la morale de notre histoire, apparaît sur le sol du bush, où nous suivons l'ombre de notre autruche volante. Nous réalisons l'impossible pour que vous puissiez faire ce qui ne peut être fait. C'est pas beau ça?
Alors Guillaume, comment est structurée cette histoire?
Bon,
cette pub?
Ali, je vais vous révéler un petit secret ou deux. Ce spot, c'est la quintessence du storytelling, la mise en scène d'un conflit. Un storyteller, c'est un peu comme un sale gosse dans la cour de récré. Il n'a qu'une idée en tête, chercher la bagarre. Ici, le conflit se situe entre nos rêves et tout ce que nous nous croyons incapables de réaliser. Toutes ces histoires qu'on se raconte à nous-mêmes, sur nous-mêmes. En le dramatisant, le conteur joue sur les émotions de chacun d'entre nous et nous marque d'une façon presque indélébile. Autre petit secret. Presque toutes les histoires sont structurées de la même manière. Le conteur plante d'abord son décor, c'est le fameux « il était une fois ». Ici, c'est l'Australie, le bush, les autruches. Tout se déroule toujours normalement, jusqu'à l'incursion d'un élément déclencheur. Il s'agit de l'instant où l'univers du héros bascule. Là, c'est quand notre autruche s'empare du masque. S'en suivent les péripéties et les plongeons dans le sable, jusqu'au climax que nous évoquions. Et surtout, une transformation du héros. Vous connaissez le film Interstellar de Christopher Nolan ?
Ben oui, oui, oui.
Alors que la Terre se meurt, le héros Cooper va être envoyé dans l'espace pour une mission quasiment impossible. Il doit abandonner ses proches et notamment sa fille. Avant de partir, il discute avec elle. Il lui raconte qu'à la naissance de son frère aîné, leur mère avait dit ceci. « Maintenant, notre seul rôle, c'est d'être des souvenirs pour nos enfants. » En utilisant le storytelling, c'est un souvenir que veut nous laisser Samsung. Après les ennuis que la marque a rencontrés avec certains de ses matériels, elle met en scène un animal connu pour sa grande pusillanimité, son manque de courage. Quelle ironie pour vanter un masque de réalité virtuelle. Samsung veut nous raconter l'histoire d'une marque qui s'adresse à ceux qui ne se cachent pas la tête dans le sable. Car attention, une bonne histoire ne parle jamais du conteur, mais de celui qui l'écoute.
Merci Guillaume Lamar pour cette toute première chronique. C'était votre première fois.
Et tout à fait.
Voilà, il faut une première fois à tout, n'est-ce pas Guillaume?
Merci Ali.
Merci d'avoir remplacé Thibaut de Saint-Maurice cette semaine dans Grand Bien vous fasse. Une émission préparée par Laure Grand-Besançon et Lorraine Bess avec l'aide de Clara Marliot et c'est réalisé par Claire Destacan. 01 45 24 7000 pour nous contacter.
Sur mon coussin comme un dessin, comme une tache. C'est ton mascara qui déteint quand on se fâche. Pour un café un peu mal fait, une bricole. Quand on se bat, moi je voudrais qu'on en rigole. Si moi aimais-toi, blessez-moi. Si moi aimais-toi. Quand moi aimais-toi, blessez-moi. Quand moi aimais-toi. Si moi aimais-toi, blessez-moi. Si moi aimais-toi. Quand moi aimais-toi, moi blessé. Et moi. Da-dum-dum. Et les gens ne comprennent pas qu'on le supporte. Que je me mouche dans tes bras, sois ma carotte. Prendre la peine de s'abîmer, faire des scènes au lieu d'aimer, et faire l'amour par dégoût du dégât. Yeah, yeah. Si moi aimais-toi, blessez-moi. Si moi aimais-toi. Quand moi aimais-toi, blessez-moi. Quand moi aimais-toi. Si moi aimais-toi, blessez-moi. Si moi aimais-toi. Quand moi aimais-toi, moi blessez-moi. Sur mon coussin comme un dessin, comme une tache. C'est ton mascara qui déteint quand on se fâche. Et ce coussin d'ici demain, après l'orage, sera témoin que l'on sait bien tourner la page.
Vianney, moi, aimez-toi, la chanson préférée d'Antoine en ce moment.
C'est vrai que j'adore.
France Inter. Grand bien vous fasse.
10h25 et ce matin, je vous propose de démystifier ce qui se passe dans un cabinet de sexologie ou de sexothérapeutie. Ça se dit ou pas, non? Sexothérapie, tout simplement. Voilà, je me complique la vie pour rien ce jeudi de l'Ascension. Avec la journaliste Elsa Fenner, le sexothérapeute Alain Héril et le médecin sexologue Sylvain Mimoun. Alors, Alain Héril, ce qui est spécial dans une consultation en sexothérapie, c'est qu'il s'agit d'intimité. Ça touche des aspects de soi où la honte, la morale, l'incongruité s'invitent dans la consultation.
Oui, et il s'agit aussi d'une parole qu'on ne peut pas poser de la même manière ailleurs. Moi, j'ai toujours été étonné en consultant de voir qu'on est dans un monde qui est quand même où le discours sur la sexualité est très présent. Et d'avoir, notamment en consultation de couple, des couples qui me disaient « Monsieur Héril, on est très heureux de venir dans votre cabinet parce qu'enfin, on peut parler de sexualité ». Donc il y a une espèce de dichotomie, et je leur dis, mais vous en parlez pas en dehors, ben non, on n'a pas le temps, il y a les enfants, il y a les problèmes financiers, il y a tout ça et tout ça. Donc c'est quand même un endroit où tout d'un coup cette parole intime, elle a une autre valeur, et puis qu'il y a quelqu'un qui écoute et qui accompagne aussi, donc c'est ça qui est important.
Elsa Fenner, vous l'avez constaté ça ?
Oui, on prend le temps, on prend rendez-vous avec sa sexualité, c'est ça qui est intéressant. Alors, on vient seul ou à deux, pour rebondir à ce que vous disiez tout à l'heure, quand quelqu'un vient seul et évolue, progresse seul, ça peut être à la fin d'une thérapie problématique parce que la personne a avancé et que le conjoint est dépassé. Je pense à une jeune femme qui est venue dans le cabinet de la sexologue que je suivais. Elle était en début de grossesse, au début de thérapie, elle a arrêté la veille de l'accouchement et elle avait découvert vraiment sa sexualité une trentaine d'années. Et son compagnon, elle consultait parce qu'elle était moins motivée, elle avait beaucoup moins d'envie, beaucoup moins de désir que son compagnon, et au fur et à mesure, c'est lui qui a été complètement dépassé. En réalité, la situation précédente lui convenait assez bien. Et que sa femme découvre sa sexualité à la faveur de sa grossesse, ça lui a pas du tout convenu.
Sylvain Mimoun, oui. Qu'on le veuille ou non, la sexualité fascine et effraie à la fois. Les patients qui viennent consulter sont confrontés à eux-mêmes et à la part d'ombre qu'est la sexualité.
Exactement, et c'est ce qu'ils espèrent découvrir quand même. Même s'ils disent qu'ils viennent pour l'autre, ce qu'ils espèrent, c'est se découvrir eux-mêmes. Et il n'est pas rare que dans un couple, en tout cas, on mette tout sur la tête de l'autre, que ce soit la femme ou l'homme. Et à partir de là, notre rôle, c'est justement non pas de jouer au juge et de dire moitié-moitié ou de 75 et etc. Donc le but du jeu, c'est de laisser parler l'un et l'autre. Moi, je pars souvent avec l'histoire de... Un couple fonctionne bien sexuellement s'il y a un égoïsme partagé. Et avec cette phrase-là, les deux, et je vois assez souvent les femmes, qui tout d'un coup s'installent dans le fauteuil et sentent que enfin on va parler de moi, quoi. En gros, c'est ça. Mais même si elles sont pas prêtes tout de suite à vouloir qu'on parle d'elles, mais dans les faits, ça les aide progressivement à accepter comment les choses peuvent se dérouler.
Alain Héril, dans votre cabinet de sexothérapeute, vous ne jugez pas vos patients, même quand ce qui se dit peut ou pourrait choquer le commun des mortels. L'idée, c'est avant tout de déculpabiliser vos patients.
Alors oui, il y a beaucoup de choses. Il y a de la déculpabilisation. Il y a même des patients qui viennent chercher une autorisation aussi auprès de nous. C'est-à-dire que le fait qu'on accompagne leur discours sexuel avec bienveillance et tout ça, ça crée aussi de l'autorisation. Mais oui, il n'y a pas de notion de culpabilité. Ceci étant, moi j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Tout n'est pas forcément recevable et entendable de notre part en tant que thérapeute. Personnellement, moi ma limite c'est la pédophilie.
Ah bah oui.
Donc c'est-à-dire que même un fantasme pédophile, je ne peux pas l'entendre. Alors heureusement, j'ai travaillé avec un psychiatre qui était à deux rues de mon cabinet, à qui j'envoyais ces patients-là. Donc c'est aussi une relation entre nous et le patient. Donc tout ne peut pas s'entendre, tout ne peut pas se recevoir, mais néanmoins, il y a une déculpabilisation nécessaire.
Et de façon plus légère, est-ce qu'il vous arrive d'être troublé par ce qui se dit dans votre cabinet ?
Moi, ça m'est arrivé effectivement d'être troublé, même de ressentir de l'excitation. Mais en tant que psychanalyste, ça, je ne le mets pas de côté. Au contraire, je le mets dans le champ. Ça fait partie de la relation, ça fait partie du transfert et du contre-transfert et tout ça. Mais oui, ça existe, c'est pas neutre.
Existe-t-il un code de déontologie en matière de sexologie ou de sexothérapie, docteur Sylvain Mimoun ?
Alors, beaucoup de sociétés de sexo quelque chose essayent de faire ces codes de déontologie qui marchent, qui tiennent la route ou qui ne tiennent pas la route. Ce qui fait que ça ne tienne pas la route, c'est que la plupart des gens qui font partie de ces sociétés-là n'adhèrent pas à tout ce qui se dit dans ces sociétés. Donc, à partir de là, alors, ce qui est le point commun à toutes les sociétés, mais c'est plus la société civile qui nous l'impose d'une certaine façon, et heureusement, c'est la pédophilie. Et le fait qu'il n'y ait pas de pédophilie, du coup, tout le monde s'autorise dans ces sociétés à dire il ne faut pas qu'il y ait cela. Maintenant, la vraie question, c'est comment faire passer le message. Est-ce que nous, en tant que soignants, si on interdisait aux patients de penser à la pédophilie, on va les aider? Non. C'est ça la vraie difficulté, quoi.
Alors, moi, je me souviens d'un pape de la sexologie, chouchou des médias dans les années 70 à 90, accusé d'attouchement et de viol sur de nombreuses patientes et décédé depuis. Jusqu'où le médecin, le thérapeute, peut-il s'immiscer dans l'intimité du couple, docteur Mimoun?
Notre rôle, c'est réellement d'entendre les autres et de les aider, et non pas nous de nous mettre en scène. Ça, c'est ça. Et les difficultés de ce fameux collègue...
Qu'on ne citera pas.
Qu'on ne citera pas, mais que par ailleurs, j'aimais bien quand même. Mais sauf dans ces travers, c'est qu'en effet, c'était de la pathologie, ce qu'il avait. C'est quelqu'un qui ne puisse pas se retenir de passer à l'acte parce que il a discuté avec des femmes, lui étant un homme, il a discuté avec des femmes et qu'il croit que c'est les sourires qu'elles lui font, c'est à lui en tant qu'homme qu'elles font et non pas au thérapeute, c'est-à-dire le transfert, il a gommé complètement. Là, c'est une erreur.
Comment distinguer, Alain Héril, un acte abusif d'un exercice ayant pour but de résoudre un blocage corporel? Alain Héril.
Oui, ben là, on parle de déontologie, effectivement, qu'il n'y a pas de passage à l'acte, mais également dans ce qui est en jeu aussi, c'est que moi, je me place du côté de la parole. Par exemple, je donne très très peu d'exercices à faire à mes patients, par exemple, mais si jamais j'en donne, ça se fait en dehors du cabinet. Donc là, il y a un cadre qui est posé et que je pose dès le début, effectivement, du travail thérapeutique.
Elsa Fenner.
Oui, voilà, c'est ce que je voulais dire. La sexologue que j'ai suivie, elle accompagne par la parole, par l'écoute, éventuellement des séances d'hypnose, mais qui restent quand même...
Verbal,
exactement. Les exercices se font à la maison et ça fonctionne très bien comme ça. Donc, plutôt de dire aux auditeurs qu'à partir du moment où des exercices se font dans le cabinet, il faut peut-être être en alerte, je ne sais pas. Et par ailleurs, il y a un code de déontologie pour les médecins, pour les psychothérapeutes, pour les gens qui pratiquent l'hypnose. Il y a des chartes qui entourent tout ça. Hein.
Docteur Mimoun.
Voilà, il y a une nuance quand même par rapport à tout ce discours-là. C'est que, bien entendu, moi je suis gynécologue et en tant que gynécologue, il y a des symptômes plus ou moins spécifiques, comme par exemple le vaginisme, c'est-à-dire la non-pénétration du vagin. Et pour pouvoir aider ces femmes vaginiques, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus direct de pouvoir les examiner gynécologiquement parlant et non pas sexologiquement parlant. C'est-à-dire que le but du jeu, c'est pas qu'elles aient du plaisir, c'est simplement que cette pénétration qui est due à la peur de la patiente puisse être dépassée.
Qu'est-ce qui pousse à consulter la première fois, Elsa Fenner, dans ce que vous avez pu constater dans votre enquête?
Oui, sachant que le motif de consultation n'est pas forcément, peut en cacher d'autres, disons. Pour les hommes, des problèmes d'érection, voilà, assez classiquement, d'érection tout court ou de maintien de l'érection. Pour les femmes, des problèmes de désir, un petit peu de plaisir ou effectivement de vaginisme. Mais généralement, les troubles sont ramifiés, ils vont vers des troubles qui sont plutôt de l'ordre de la psychologie, effectivement. Et quelquefois, on les oublie en cours de route. Ils ont été résolus, mais...
À propos de panne de désir, prenons l'exemple d'une patiente que vous avez rencontrée hein, dans le cabinet de la sexologue que vous avez suivie, Camille qui ressemble à l'actrice Ginsberg. Alors Camille connaît une panne de désir et vous êtes assez perplexe à l'issue de cette consultation avec la sexologue. Pourquoi ?
Oui, parce que elle a une démarche, une approche donc qui m'a plu, qui est de qu'elle est dans une posture qu'elle appelle de non-savoir, c'est-à-dire c'est le patient qui arrive avec ses solutions et ses ressources, et c'est pas le médecin qui sait quand la personne arrive dans le cabinet. Voilà, elle a tel symptôme, on va l'enfermer en plus dans le terme, et moi je sais très bien quelle est la solution. Non, là c'est la patiente qui arrive avec son problème, la manière dont elle le formule et sa solution. Donc le principe est de pas passer par quelque chose de trop rationnel. Donc on s'adresse au corps parce que le corps, il comprend avant nous. il est bien meilleur conseiller. Souvent, les problèmes viennent du fait qu'on ait trop intellectualisé les choses. Donc, par définition, là, l'accompagnement va être peu rationnel, pour moi, surprenant. Donc, j'ai dû abandonner moi aussi ma raison dans la salle d'attente pour prendre comme la sexologue ce qui venait de manière très intuitive, ce qui n'empêche pas qu'elle a une énorme connaissance, elle est médecin, mais très intuitive et très en réaction, en empathie. Il lui arrivait de sentir les mêmes blocages physiques, alors je parle là quelquefois d'épaule bloquée plutôt que de problèmes sexuels, mais que le patient, c'est-à-dire en miroir total, et être elle-même débloquée quand le patient était débloqué. Donc ça, c'est très elle pouvait difficilement me l'expliquer. C'est pour ça que j'étais perplexe.
C'est l'intelligence émotionnelle, ça, en fait. Voilà. Et si on arrive à travailler avec ses émotions soi-même, on peut mieux comprendre les émotions de l'autre. Et c'est là-dessus que ça s'appuie, en fait.
Alain Héril, les problèmes liés à la panne de désir, c'est l'un des principaux motifs de consultation ?
Oui, notamment en thérapie de couple, hein, où... En tout cas, dans mes pourcentages, mais je pense que ça rejoint un peu ce que doivent vivre mes confrères et mes consoeurs, il y a 80% des couples qui consultaient pour une absence de désir, soit chez les deux, soit chez l'un, soit chez l'autre. Moi, je pars du principe que le désir, il est toujours là. La question, c'est où ? Où est-ce qu'il est passé ? Donc il y a presque un travail de détective pour essayer de trouver où est passé le désir, mais sauf dans des cas dépressifs extrêmement marqués, oui, c'est vraiment une des raisons principales de consultation.
À propos de couple, Alain Héril, vous avez une jolie définition dans votre ouvrage « Sexothérapie, c'est confidence qui soigne ». Un couple, c'est deux individus qui tiennent ensemble dans la même enveloppe, et ce qui les fait tenir porte plusieurs noms au gré de leur histoire relationnelle.
J'ai dit ça, moi.
Oui, vous l'avez écrit.
C'est pas mal. oui, c'est-à-dire que voilà, sur le couple, il y aurait évidemment beaucoup de choses à dire sur la place de la sexualité dans le couple. Mais moi, je pars du principe, quand je reçois un couple, c'est que je dois aider ce couple-là à mourir. C'est-à-dire qu'il y a une fonction du couple qui est en train de se terminer, un cycle qui se termine, et comment le même couple peut renaître à un autre couple. Il y a toujours quelque chose qui est de l'ordre de l'émergence d'un nouveau couple, y compris...
D'un nouveau mythe peut-être, d'un nouveau
d'un
récit.
D'un nouveau mythe aussi, bien sûr. Oui. Nous avons besoin de mettre du mythe dans le couple.
Il faut du rêve.
Oui.
Elsa Fenner.
Oui, je reprends dans mon livre les propos d'un psychiatre qui s'appelle Robert Neuburger, qui est très intéressant et qui dit que chaque couple a un mythe fondateur qui est, vous savez, ce fameux hasard dans votre tête qui vous a fait vous rencontrer, vous êtes revenu sur vos pas, vous ne deviez pas être cette soirée-là et finalement ça a été annulé. Et si des années plus tard on vous dit, mais en fait tout ça a été manigancé, le mythe s'effondre, et là c'est très très risqué pour le couple.
Ouais.
Et par la suite, le couple a besoin de rituels et d'autres mythes. Mais ce mythe fondateur, c'est un couple, c'est deux personnes qui se racontent ce mythe et qui se racontent qu'ils sont un couple.
Sylvain Mimoun, dans les consultations de sexothérapie ou de sexologie, la sexualité peut être à la fois le ciment fondateur du couple et la cause principale de l'effritement d'une relation.
Exactement. En fait, le paradoxe, il y a des gens qui se posent beaucoup la question de savoir, est-ce qu'on s'aime ou est-ce qu'on a du désir l'un pour l'autre ? Et étant ces deux entités-là, étant presque opposées l'une à l'autre. Jusqu'au moment où ils se rendent compte que quand ils aiment, ils ont plus de désir. De la même personne, hein. Et c'est ça, le vrai jeu, c'est ça. C'est pas de se dire j'aime ou je désire, c'est j'aime et je désire.
Allez, si vous avez déjà consulté un sexologue ou un sexothérapeute, ou si vous hésitez à le faire, eh bien, appelez-nous au 01 45 24 7000. Dans un instant, le reportage d'Antoine Lee. George Michael en 1984, Careless Whisper, et ça plaît aussi à Antoine Lee.
Mais oui, ça peut être un bon remède peut-être à la lassitude dans un couple, ça.
Un peu de George Michael.
Tube, ouais.
Grand bien vous fasse sur France Inter.
10h43 et ce matin, je vous propose de vous raconter ce qui se passe vraiment dans un cabinet de sexologie ou de sexothérapie avec la journaliste Elsa Fenner, le sexothérapeute Alain Héril et le médecin sexologue Sylvain Mimoun. Antoine Lee, je rappelle que vous êtes grand reporter dans cette émission et vous avez rencontré un couple qui a choisi de ne pas consulter un sexologue ou un sexothérapeute.
Oui, c'est vrai, ils ont opté pour le libertinage et j'imagine que nos invités ont dû recevoir pas mal de couples qui ont tenté l'expérience ou qui souhaitent le faire. Peut-être même que c'est une pratique que vous prescrivez. Ils nous le diront. En tout cas, j'ai rencontré ce couple échangiste pour en savoir plus. Alice et Philippe ont tous les deux près de 50 ans. En couple depuis 15 ans, ils ont tous les deux été mariés une première fois pendant plusieurs années. Mais comme nous l'explique Alice, l'ennui s'était installé au fil du temps.
J'étais marié, la routine a fait que... j'étais allé voir ailleurs.
Quand vous dites routine, c'est la routine de la vie ou c'est la routine dans la vie intime ?
La vie intime, sexualité surtout. Je lui ai donné 6 ans, je lui ai demandé de changer, il n'a pas changé, donc je suis parti.
Et vous, Philippe, vous étiez marié aussi. Est-ce que la question de la sexualité a joué énormément dans votre séparation ?
Oui, bien sûr, parce que j'en avais déjà discuté un petit peu à l'époque avec mon ex-compagne. Qui ne voulait pas du tout entendre, surtout que bon, c'était un petit peu déjà compliqué nos relations entre nous deux, parce que c'est la suite de la naissance de mon deuxième enfant qui vraiment a resté bloqué. C'est ce qui m'a emmené en fait à au fur et à mesure à la quitter, donc, simplement. C'est ce qui a fait que ça nous a emmené à un divorce.
Et vous, justement, vous êtes ensemble depuis 15 ans. Quelle est la place de la sexualité dans votre relation ?
Ben, je pense que depuis 15 ans, ça n'a pas changé depuis le premier jour pratiquement. C'est-à-dire que les envies sont toujours aussi présentes, voire plus des fois.
Donc on a 15 ans de vie parfaite et puis en sexualité, super bon.
Et en sentiments ?
Pareil, on est très heureux et puis on va de l'avant.
Comment ça a commencé votre aventure dans le libertinage ?
C'est-à-dire qu'en fait, au moment de ma séparation, j'ai traîné tout de même 2 ans avant de rencontrer madame ici présente. Et pendant ces 2 ans, j'ai fait connaissance de gens qui étaient libertins. Je l'ai avoué, en fait, peut-être 5-6 mois après nos débuts de relation ensemble. J'avais ce poids en moi, je ne pouvais pas le garder en lui disant, écoute, voilà, j'ai quelque chose à te dire. Je suis libertin, donc elle connaissait même pas ce que c'était le mot libertinage. Ah oui. Je te demande pas de me suivre, mais je te demande tout du moins de découvrir.
J'ai eu un peu de mal à dire oui au début, et je lui ai dit ça sera pas possible parce que je pourrais pas changer avec d'autres personnes. Mais je réfléchis. Donc aujourd'hui, j'ai découvert ce milieu, et puis ça me plaît énormément, et puis je demande beaucoup plus, et puis je veux découvrir encore plus.
C'est vrai que si on n'avait pas ces rencontres de couple qui permettent de pimenter la vie, moi pour donner un exemple, quand je pars dans une soirée, que je rencontre des gens, qu'on a passé une très bonne soirée, je rentre à la maison, je suis encore plus excité, je vais refaire ça avec ma femme le soir. Mais d'un autre côté, si j'avais pas ce libertinage, on l'aurait fait, mais voilà, avec moins peut-être d'enthousiasme. C'est vrai que lorsqu'un couple, je pense que c'est lié à tout le monde, lorsque vous avez des soucis perso, sexuellement, ça y joue.
Si je comprends bien, lorsque vous avez des soucis, la sexualité, elle est un peu oubliée. Et le libertinage permet de justement pas oublier cette sexualité entre vous.
Tout à fait. Ouais, entièrement d'accord. C'est un booster.
Vous n'avez jamais été jaloux ?
Franchement, non. J'aime ma femme. Mais quand on fait du libertinage, si on devient jaloux, on arrête le libertinage, ça sert à rien.
Après, c'est vrai que quand vous avez confiance dans la personne avec qui vous êtes, c'est fini, la jalousie, elle s'oublie.
Vous, est-ce que vous conseilleriez le libertinage à un couple dans lequel ça se passe pas très bien, point de vue sexuel, et qui risque de divorcer à cause de ça ?
Là, c'est dangereux, là, par contre. Si déjà, à la base, ils sont... Excusez-moi, on m'a toujours dit, un verre qui est fêlé restera toujours fêlé. Vous avez beau mettre de l'alcool, il restera toujours fêlé. Mais c'est pas arrivé pratiquement à une phase terminale, entre guillemets, que vous allez sauver un couple. Au contraire, je pense que c'est plus destructeur, parce que là, ils vont s'apercevoir que leur sexualité peut être différente avec d'autres personnes, hommes ou femmes. Et là, en effet, les jalousies peuvent se créer.
Reportage signé Antoine Lee.
Oui, je voulais demander aux médecins ici présents si le libertinage est souvent évoqué lors des consultations des couples. Est-ce qu'il y a des couples qui pensent que ça peut être un remède à leurs problèmes conjugaux ?
Docteur Mimoun. Oui, il y a des couples qui eux-mêmes mettent en avant cette solution en se disant peut-être qu'on devrait faire du libertinage. En fait, ils ne nous demandent pas l'autorisation, peut-être qu'à toi ils te demandent, mais globalement, ils ne me demandent pas ça. Et pour ma part, en tout cas, je ne le propose jamais comme moyen. C'est maintenant qu'ils le font, ils sont majeurs et vaccinés, donc chacun fait ce qu'il veut de sa vie, si tant est que l'autre ne soit pas obligé de suivre. C'est toute la nuance, elle est à ce niveau-là.
Alain Eril.
Ça va tout à fait dans le même sens, la réponse que je peux apporter. J'ai entendu souvent des couples ou même des personnes individuellement qui se posaient la question de savoir si c'était pas la solution pour relancer le désir dans le couple. Ce qu'il faut quand même voir, c'est que le libertinage, c'est une philosophie de vie. C'est une manière de concevoir le couple, le rapport à soi, le rapport à l'autre. Et que moi, j'ai eu dans mon cabinet des patients qui dont le couple a volé en éclats parce qu'ils avaient fait une tentative libertine et qu'ils n'étaient pas prêts à vivre ça. C'est quand même être en face, et pas simplement qu'en face, de données assez pulsionnelles. Est-ce qu'on est prêt à les vivre, à accepter? Ça remet en cause le couple de manière vraiment très fondamentale. Donc c'est pas si simple que ça. C'est pas la solution, bien entendu.
Question d'auditeur, de Katiushka qui nous dit: vous parlez de consultation en couple, mais mon mari refuse de consulter. Pour lui, il n'y a pas de problème. Est-ce que je peux consulter seul,
Dr Mimoun? Je dirais clairement oui. Et normalement, tous les sexos, quelque chose, on fait du systémique. Le systémique étant une thérapie qui considère le couple comme un système, et si on s'occupe d'un des membres du système, à savoir la femme ou l'homme, on peut traiter le couple à travers cette personne-là.
Alain Eril.
Oui, tout à fait. Et quand je parlais tout à l'heure de couple qui finit, de cycle qui se termine, c'est aussi lié à la loi des systèmes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on modifie l'un ou l'autre à l'intérieur du système couple, il y a forcément une modification relationnelle qui a lieu. Alors après, ça peut être le couple qui s'élargit, qui continue, comme ça peut être aussi la fin du couple.
À propos de couple, Elsa Fenner, racontez-nous l'histoire de Virginie et Paolo venus consulter ensemble. Tout allait plutôt bien entre eux jusqu'à ce que Virginie se fasse retirer la thyroïde. Le retrait de la thyroïde était le motif apparent de la baisse du désir.
Oui, parce que chaque patient, enfin chez la sexologue chez laquelle j'étais, arrive avec une explication. Donc ça peut être la ménopause, comme tout à l'heure, l'âge, la fin de la passion, une opération, des médicaments. Et donc le premier rôle de la sexologue, c'est de faire voler en éclats, quand c'est évidemment pas valable, cette explication, parce qu'on constate par exemple qu'on peut avoir 67 ans et que de temps en temps ça marche et de temps en temps ça ne marche pas, donc c'est pas l'âge. Pareil avec la ménopause, elle leur disait souvent, si vous avez envie de penser que la ménopause c'est la fin du désir, alors ça le sera. Ça dépend ce qu'il y a dans votre tête. Donc il y avait cette explication qui vole en éclats, et ensuite donc une métaphore qui se termine, une explication qui se termine, et pour laisser la place à de nouvelles. Donc ce couple-là, Virginie et Paolo, elle a une trentaine d'années, lui un petit peu plus, et ils sont mariés depuis 10 ans, ils faisaient l'amour tous les jours. Bon, moi, ça fait partie des moments où j'ai failli tomber de ma chaise. Mais ils se sont construits ensemble dans leur sexualité, ils n'ont connu l'un que l'autre. Et effectivement, ils ont deux enfants. Un an auparavant, elle s'est fait retirer la thyroïde, et elle, c'est son explication. Et alors, moi, bizarrement, contrairement aux patients de chez Monsieur Mimoun, j'ai observé des gens qui prenaient plutôt tout sur leur dos, qui accusaient très très rarement leur partenaire, mais qui étaient plutôt dans la culpabilité. C'est de ma faute. Donc elle pensait que c'était de sa faute, c'était cette opération de la thyroïde. Elle n'avait pas fait le lien avec le fait que cette opération de la thyroïde venait après 5 opérations, enfin c'était la 5e, dont 2 avortements, des tas de problèmes qui en plus s'étaient nourris les uns les autres, puisqu'elle avait fait promis des médicaments qui annulaient l'effet de la pilule, elle était tombée enceinte, elle est de nouveau enceinte, et toutes ces opérations s'étaient faites dans le domaine alors du bas-ventre, bon, à l'exception de la thyroïde, mais et du coup ce que lui a fait pointer pour toucher du doigt la sexologue, c'est qu'il était possible que son corps fasse grève, parce qu'il avait été agressé dans cette sphère-là pendant un petit moment, et qu'il était tout à fait normal de lui laisser le temps, parce qu'elle avait envie de faire l'amour et arriver le soir à la maison, elle n'avait plus du tout envie. Et donc l'idée, c'était de réharmoniser le corps et la tête, et de se laisser le temps d'accepter aussi qu'à un moment ce soit une pause.
Alain Hérine.
Oui, ce qui est intéressant, et je l'ai entendu souvent, ce sont, là encore, je reviens à la question des idées reçues, sur la régularité de la sexualité, oui. Sur, moi je me souviens...
La normalité,
je me souviens d'un couple qui est venu me voir en me disant qu'ils n'allaient pas bien du tout, parce qu'ils ne faisaient pas l'amour 3 fois par semaine, et qu'ils avaient lu des statistiques disant que...
Qu'à notre âge, il fallait que...
Et je leur disais, mais quand vous faites l'amour, comment ça se passe? Mais très bien. Donc voilà, c'est-à-dire que le problème aussi, c'est qu'on est coincé entre les dimensions quantitatives et les dimensions qualitatives, et que c'est très difficile à démêler tout ça, et que oui, un corps qui fait grève, c'est pas un corps qui a décidé que le désir était fini ad vitam aeternam. Donc je trouve que c'est une très belle histoire.
Ouais. Docteur Mimoun, le travail du médecin sexologue, c'est de vérifier que le trouble sexuel n'a pas une origine physiologique liée à une pathologie.
Oui, oui, ça fait partie normalement de son rôle. Maintenant, la question, c'est jusqu'où va-t-il aller? Est-ce que le but, c'est de faire des scanners à tout le monde, des IRM à tout le monde, et plein de bilans lourds et très loin de la problématique des patients? Ou est-ce que c'est de rester au plus près de ce que souhaitent les patients? Et ce que souhaitent les patients, c'est trouver la solution. C'est la seule chose qui les intéresse. La plupart du temps, ils n'en ont rien à faire de savoir d'où ça vient.
Elsa Fenner.
D'autant plus qu'apparemment, extrêmement rarement, le trouble est d'origine physiologique et mécanique. Donc, enfin, en tout cas, je pense que ce qu'on peut dire aux auditeurs, d'abord, essayer des psychothérapies, des sexo-machins, avec des gens qui sont formés pour, évidemment. Et ensuite, éventuellement, en cas de vraiment d'impasse, on peut passer à autre chose. Mais quand même, j'ai l'impression que la majorité des cas se résout avec de la parole, de l'écoute.
Et je m'adresse au psychosomaticien que vous êtes également, Sylvain Mimoun. J'imagine qu'il est fréquent que des problèmes fonctionnels masquent des difficultés psychologiques qui débouchent sur des difficultés sexuelles.
Voilà, mais sauf que quand ils viennent voir par exemple un psychosométicien, dans ce cas-là, ils acceptent l'idée que ça soit leur corps qui porte le symptôme, et ils voudraient qu'on entende ce symptôme du corps. Et alors que si on va du côté de la psychothérapie uniquement, ils ont l'impression qu'on s'éloigne trop de leur problématique.
Bonjour Greg. Bonjour Greg, vous appelez de Paris.
Oui, voilà.
Bienvenue dans l'émission.
Alors j'avais une question en fait. Moi j'ai 24 ans. Et j'ai emménagé avec ma copine il y a à peu près un an. Et depuis qu'on a emménagé, ça a beaucoup changé notre vie sexuelle, notamment du point de vue du désir. Donc la première question que je me posais, c'est est-ce que ça arrive souvent? Est-ce que c'est normal, entre guillemets?
À votre âge?
Et puis la deuxième question, qui est liée à mon âge, c'est est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui, à 24 ans, vont consulter un sexologue?
Docteur Mimoun.
Oui, on consulte à n'importe quel âge. J'ai même vu des personnes, hommes ou femmes de 18 ans, qui venaient parce qu'ils avaient une difficulté. Ça, c'est le problème de notre société actuelle. C'est on a un problème, il nous faut une solution tout de suite. Et ça ne veut pas dire que le sexologue va trouver la solution tout de suite, mais au moins, on peut aborder le problème. Et la deuxième chose, c'est que c'est vrai que ça dépend du contexte dans lequel on est. La vraie difficulté, c'est qu'il y a beaucoup d'idées reçues parmi les gens qui viennent consulter, c'est-à-dire qu'ils pensent qu'à cet âge-là, on doit pouvoir le faire l'amour. Si on s'aime, on le fait. Si on ne le fait pas, c'est qu'on ne s'aime pas, ce qui est faux.
Alain Héril.
Oui, sur la question des idées reçues sur l'âge et tout, mais ce que j'entends de la part de Greg, c'est qu'à partir du moment où il rentre dans quelque chose, où il y a un engagement qui est acté, posé, tout ça, est-ce qu'il n'y a pas une fonction du couple qui tout d'un coup va entraîner une diminution du désir? On a ça souvent avec la parentalité, par exemple. C'est extrêmement fréquent que dès que l'enfant arrive, le désir décroît. Donc voilà, c'est tout ça aussi qu'il faut regarder, mais ça ne veut pas dire que c'est une fin définitive. C'est juste un mouvement qu'il faut accompagner.
Greg, est-ce que vous allez consulter, du coup?
Je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore, mais vous m'avez apporté quelques...
bribes de réponses.
Voilà. Merci beaucoup, Greg, de nous avoir appelé de Paris. Elsa Fenner.
Oui, la question de l'auditeur fait écho à beaucoup de patients, moi, que j'ai vus, mais à tous les âges, c'est-à-dire que même des seconds mariages, j'étais très étonnée que des gens à 50, 55 ans retombent amoureux après un divorce et refassent... alors là, j'allais dire les mêmes bêtises, mais non, s'installe notamment, emménage très vite. Non, je sais pas là quel est le cas de l'auditeur, mais j'ai vu des gens à 55 ans emménager au bout de 3 mois ensemble, et là, ils viennent consulter parce que effectivement, ça a été un feu d'artifice au départ, et à partir du moment où ils emménagent ensemble, c'est encore moins facile, je pense, à 55 qu'à 24 ans, et là, le désir s'en va. Il y a ça aussi à questionner, on n'est pas tous obligés. Enfin voilà, là encore, la norme peut se questionner sur la cohabitation, sur plein d'autres sujets.
Et la tendresse, bordel. Et l'amour dans tout ça. Et l'amour dans tout ça. Quelle est la place de l'amour dans un cabinet de sexothérapeute ou de sexologue, Alain Hérille?
Bah, je crois que la place de l'amour, elle est centrale.
Si tant est qu'on n'oublie pas la sexualité, toute la question, elle est là.
Exactement, c'est ça. C'est-à-dire que c'est un peu ce qui était dit tout à l'heure, parce que là, c'est des manières d'accorder les choses qui ne sont pas simples entre l'amour, le désir, le fantasme, la sexualité, la pulsion, la morale, tout ça. Ah, c'est des univers. C'est comme un patchwork ou un puzzle. Hein, c'est comment on arrive à harmoniser cet ensemble de choses, mais en même temps, dans le fond, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'amour. Après, l'amour, ça fait des millénaires qu'on essaye de définir ça, donc c'est pas moi qui vais le faire ici en 30 secondes.
Vous avez bien raison, Alain Eril. Sylvain Mimoun.
Oui, non, ce qui est important, c'est que, en fait, l'homme, comme on le disait tout à l'heure, sa plainte, c'est l'érection. La femme, sa plainte, c'est l'absence de désir. C'est le trouble numéro un parmi tous les troubles sexuels féminins. Sauf que parmi ces troubles du désir, il y a des femmes qui disent « je n'ai pas envie puisque mon vagin est sec ». Et si le vagin est sec, il y a des solutions physiques pour traiter les choses. Et je crois que c'est important d'utiliser aussi ça.
Elsa Fenner, sur la question de l'amour, vous avez rencontré une vingtaine de patients pour votre
enquête.
Oui,
tout à fait. Donc c'est pas du tout représentatif, mais c'est plus qualitatif, on va dire. Je pense que dans les cabinets de psychothérapeutes, des sexologues, etc., ce qui est intéressant, c'est qu'on peut poser toutes les questions qu'on a envie de poser.
Apparemment stupides.
Bien sûr, absolument toutes les questions. Déjà, ça fait du bien de dire qu'on n'est pas obligé de faire l'amour toutes les semaines, le rapport sexuel peut être très bref. Enfin, il n'y a absolument pas de normes. On peut aussi aimer quelqu'un et ne pas faire l'amour avec lui. Je ne suis pas sûre que la sexualité soit forcément une donnée. Et on peut aussi apprendre que les sentiments et le désir appartiennent dans le cerveau à deux circuits différents. Je trouve que c'est une donnée assez intéressante, par exemple.
Et puis Elsa Fenner, pour conclure, au fil de votre ouvrage, de votre voyage dans le monde de la sexothérapie, vous avez constaté que de nombreux médecins adoptaient une posture de non-savoir, ce qui est quand même assez intéressant.
Ouais. Hein,
ils viennent pas avec... ils sont aussi là à l'écoute de leurs patients, et les patients, ils ont aussi les réponses en eux-mêmes. Hein, c'est ce qu'on constate.
C'est très encourageant. On a tous nos ressources et nos réponses en nous-mêmes. Donc, comme vous disiez sur le désir, il n'a pas disparu, la vie n'a pas disparu, il faut simplement sortir de l'impasse.
Merci Elsa Fenner, Sexothérapie est publiée au Seuil, merci Alain Eril, Sexothérapie, c'est Confidences qui soignent, publiée aux éditions Bussière. Sylvain Mimoun, le titre de vos derniers ouvrages ?
Côté cœur, côté sexe, l'ABC du bonheur à deux.
Allez, demain, comme tous les derniers vendredis du mois, ces livres qui font du bien, et nous vous proposons demain une sélection de livres qui font rire ou sourire. À demain.